le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Et on va fêter un anniversaire aujourd'hui dans ce magazine citoyen. Bienvenue sur ce plateau. On va replonger en 1986 lorsque des fans de Star Wars ont créé un mini-club devenu le Sci-Fi Club. 40 ans plus tard, on en parle avec la présidente Marianne Tissandier. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Et puis un membre de longue date, on peut le dire, Guillaume Hervouette. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi. Je le disais, 40 ans, c'est peut-être l'occasion aussi de refaire un petit peu d'histoire. Comment est né ce club de passionnés de fantastique?
Ben voilà, dans les années 80, on va dire que c'était déjà des geeks, mais à l'époque c'était pas aussi glamour qu'aujourd'hui, donc ils se réunissaient dans le sous-sol d'une maison pour regarder des films et pour parler de Star Wars. Et puis sont arrivées d'autres personnes qui aimaient eux la littérature et qui ont commencé à parler littérature, à créer une bibliothèque. Sont arrivées des personnes qui aimaient le jeu de rôle sur table, Donjons et Dragons, ce genre de choses, qui à l'époque étaient, encore une fois, pas aussi glamour qu'aujourd'hui. Et à force, ça a continué. D'autres personnes sont arrivées, d'autres sont parties. Mais il y a toujours eu ce fil directeur qui a continué. Et grâce à des personnes comme Guillaume, qui a gardé la présidence à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'animation, mais ça a continué.
Ouais, c'était le moment où justement on a des changements de génération, où forcément les premiers membres commencent à grandir, à avoir des vies de famille, avoir des enfants, et donc moins de temps justement à consacrer à la passion. C'est un moment où on tient les choses pour faire, on va dire, le minimum et pour continuer à garder le nom du club, et jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle génération qui vienne. Et d'ailleurs, un des présidents est venu, avait moins de 12 ans lorsqu'il est rentré, il est rentré au club, c'était Philippe, et ça a continué, et ça continue encore maintenant, là, donc depuis 40 ans.
Alors sur cette longue chaîne de 40 ans de présidents et d'adhérents, est-ce qu'il y aura des membres fondateurs qui continuent à venir vous voir? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a toujours des gens qui étaient là à l'origine?
Alors à l'origine même, pas vraiment, parce que ils sont aussi pour beaucoup passés à autre chose. Mais on a quelques adhérents qui sont là depuis 89, 90. Ouais,
quasiment le début,
oui. Oui, quasiment le début.
L'origine,
ouais.
Et qui ont connu toute cette évolution du club, qui l'ont vu grandir aussi. Quelles ont été les étapes marquante de votre club?
Alors je dirais dès 87 la création des 24 heures du Fantastique, le festival de cinéma avec les cinémas Ixon, donc à l'époque au Liberty. Ensuite c'est passé au Rex et au City, et c'est retourné ensuite au Ciné City quand ils ont ouvert en 2005 je crois, et là c'est devenu la nuit du Fantastique. Donc on n'était plus sur 24 heures de cinéma mais une nuit de 12 heures, qui est déjà quand même pas mal.
Ouais. Mais vous le disiez, donc au départ, ils se réunissaient un petit peu en cachette, entre eux, entre initiés, entre personnes qui aiment ce genre-là.
Oui,
mais il y a quand même une volonté d'extériorisation avec des événements, par exemple au cinéma, plus grand public, de faire découvrir une passion.
Oui, oui, oui. Ils organisaient. Enfin, voilà, c'était vraiment des fans de cinéma. Et donc, le festival de cinéma est arrivé très rapidement. Mais après, il y avait souvent des réunions dans lesquelles on parlait de littérature, on parlait des réunions de jeux de rôle. Et on avait notre président Hervé Besson à l'époque qui a fait un travail énorme pour la communication. Je me souviens qu'il faisait des petites newsletters et puis pas d'ordinateur à l'époque, donc c'était des petites newsletters qu'il faisait avec des lettres collées sur des feuilles en papier et qu'il envoyait par la poste, etc., avec des dessins découpés, enfin des choses comme ça. Et ça vraiment, ça donnait envie. C'était le petit fanzine qui était fait, et du coup qui donnait envie aussi à d'autres personnes de rejoindre le club. Et ça créait en fait un petit groupe, un petit noyau de personnes qui étaient intéressées par les cultures de l'imaginaire, par la science-fiction, la fantasy, le fantastique. C'était le seul endroit vraiment où on pouvait trouver ce genre de choses en Calédonie à l'époque.
C'est la force du club en fait, déjà d'avoir un statut aussi large, puisqu'en fait l'objectif c'est de promouvoir la science-fiction, l'imaginaire et le fantastique en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on peut le faire, et sous toutes ses formes. Donc en fait on a pu justement aborder énormément de sujets. C'est là où en fait on a eu les premières réunions manga qu'on appelait Japanimation. On a exploré aussi des genres en fait particuliers du cinéma avec il y avait Blood Zone qui est la session horreur et gore par exemple, pour ceux qui étaient vraiment fans du genre. Il y a eu plein de choses justement lorsqu'on avait vraiment une appétence pour la science-fiction, le fantastique et l'imaginaire, qui ont permis de renforcer tout ça, surtout à une époque où il n'y avait pas encore Internet. C'est ça aussi qu'on a un peu du mal maintenant à ne pas concevoir, c'était que on se réunissait que des jeunes, en fait, hein, majoritairement, parce qu'on avait tous moins de 18 ans lorsqu'on est rentré dans ce club-là. Mmh. Et en fait, on faisait nos recherches, soit avec les magazines, déjà, qui en plus venaient par bateau. Et puis quelqu'un partait en voyage et puis d'un coup revenait avec énormément d'informations beaucoup plus fraîches justement à échanger avec nous. Et ça a créé en fait cette espèce d'émulation et on a appris énormément de choses.
Et cette bibliothèque de l'imaginaire au final qu'on a, on a plus de 4000 ouvrages, que ce soit des livres, des bandes dessinées, des comics, des mangas, on a des audiolivres, on a des jeux de rôle aussi, etc. Donc au fur et à mesure, quelque chose qui s'est construit, hein, 40 ans, justement, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec la page Wikipédia du club.
Oui, justement, pour trouver toute votre histoire
voilà,
sur cette page Wikipédia.
C'est ça, oui. Il manque encore des petites anecdotes mais qui vont être ajoutées, mais ça donne quand même un beau fil rouge par rapport à tout ce qu'on a fait et, au fur et à mesure des années. Et c'est vrai que ça permet justement de... c'est vraiment, ça se construit au fur et à mesure. En 40 ans, on a le temps, en tant qu'association, vraiment de mettre en place énormément de nouveaux projets aussi, dont certains qui vont... je me souviens de l'exposition Sif Images entre 2010 et 2012. On avait fait une exposition à la Maison du Livre à l'époque avec des artistes et des illustrateurs. Et c'était super sympa. On a fini par même un petit catalogue d'expo. Ça a duré que 3 ans, mais pendant 3 ans, on a fait ça et ça a bien marché.
Oui, parce que vous faites énormément d'événements, on va y revenir, mais sur cette question de la passion d'une culture de niche dans un contexte insulaire début des années 90, c'était justement, je suppose, très difficile d'avoir accès à cette information, à ces sources-là. Comment vous faisiez justement, vous parliez des voyages, mais je suppose que c'était quand même compliqué.
Disons qu'en fait, ce qui est assez étonnant pour une île comme ça, qui est tropicale, où il fait beau, où on a des plages magnifiques, où on a des paysages sublimes...
Vous préférez rester enfermé.
Il y a ce côté, en fait, où... Ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, on est une île où il y a énormément de geeks, en fait. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on a grandi aussi avec les vidéoclubs. Si vous vous rappelez, en fait, lorsqu'on était vraiment années 80, années 90, il y avait une chaîne de télévision qui commençait à 11h, voire même un petit peu après. Ensuite, il y a une deuxième chaîne qui arrivait qui commençait à 5h. Donc, si on voulait voir un film, déjà en plus le cinéma, les films arrivaient souvent 3 mois après. Donc, on allait au vidéoclub. Le vidéoclub entretenait cela avec ce choix, c'est maintenant qu'on fait depuis son canapé avec toutes les offres streaming, etc. On se rend pas compte en fait de l'impact que ça pouvait avoir. On mettait une cassette vidéo, on regardait, on avait une bande annonce du prochain film dont on ne savait rien du tout. Mmh. On connaissait pas les acteurs, on connaissait pas tout, etc. Et nous, au final, on se réunissait pour en parler, en disant est-ce que tu as vu ça ? On réagissait. Et ce qu'on fait maintenant sur les réseaux sociaux, mais on le faisait en vrai. Tout simplement.
Et puis, on a beau penser qu'on aime s'enfermer, alors c'est pas totalement faux, mais c'est quand même, c'était notre premier réseau social.
Oui.
Parce que c'était un endroit où on pouvait tous se retrouver pour parler de choses qui nous intéressaient ou qu'on aimait. On pouvait même apprendre des choses parce que parmi nous, on avait des... les geeks sont des passionnés, donc des spécialistes, en tout cas en devenir. Donc il y avait toujours quelqu'un qui allait parler de sa passion et apprendre des choses aux autres. Et c'est comme ça qu'on ouvrait aussi notre imaginaire, on ouvrait notre horizon. Et c'est ce qu'on essaye toujours de faire avec le SIFI.
Et aujourd'hui, votre passion, elle a évolué. Vous avez changé de genre de prédilection. Vous avez fait évoluer votre passion à titre personnel.
Alors, on est toujours fan de Star Wars, même si c'est pas... Moi, je sais que ça n'a pas été ma porte d'entrée, justement, dans la science-fiction. Moi, ça a été Superman, Richard Donner, avec Christopher Reeve. Mais c'était un émerveillement, en fait, et qui a été repris en continu. Et on a gardé, en fait, cette âme-là, cette envie, justement, de rêver, qu'on peut avoir au cinéma ou même chez soi, parce que c'est vrai qu'on va un peu moins au cinéma ces derniers temps.
Mais pourquoi ?
On essaye d'organiser justement différents événements. D'ailleurs, il y en a un de prévu bientôt, le mois prochain. Ouais. Forcément, il y a un nouveau Star Wars qui sort. Donc,
il y a un nouveau Star Wars qui sort, qui est en fait la suite d'une série Star Wars de Mandalorian et Grogu. Et on va faire une sortie spéciale. Enfin, voilà, Guillaume justement présentera le reste de la série. Et puis, on aura plein d'adhérents qui seront costumés et d'adhérentes, parce que Star Wars, c'est aussi des magnifiques costumes et puis un monde très lointain. Ouais.
Et ça, évidemment, j'imagine que la séance, vous ne pouvez pas la manquer, celle-ci.
Ah non,
du tout. Il y a des choses
c'est coché dans le calendrier.
C'est coché.
Ah, mais quand l'épisode 1 de Star Wars était sorti en 2000, avec Guillaume, on était allés.
Exprès en Australie
pour aller le voir en version originale, parce qu'à l'époque, les versions originales, c'était pas.
Bah, on n'arrivait pas à les trouver, puis surtout, et on était encore avec cette problématique de le film arrive dans 2 ou 3 mois. Là, maintenant, en fait, on se pose plus la question. Le film arrive même des fois ici avant la sortie officielle Métropole, du fait du décalage. Donc, on a cette chance-là. Ce qui a évolué vraiment entre les premiers moments où on était au SIFI, c'est la technique. C'est les usages, en fait, par rapport à la technologie qu'on a eue, en fait. Progressivement, avant, il n'y avait pas tout le monde qui avait un magnétoscope, ne serait-ce chez soi. Donc, du coup, ce n'est pas facile de discuter d'un film qui n'est pas diffusé à la télé, ou etc. Ensuite, il y a eu les ordinateurs qui sont arrivés. Ils coûtaient assez cher, pas tout le monde non plus n'avait un ordinateur. Le club a permis de financer un ordinateur et déjà chacun de pouvoir un peu voir ce que c'était. Ensuite, Internet est arrivé. D'un coup, on se retrouve avec toute l'information qu'on désire à un clic, même si c'était avec le vieux modem 56K qui rame tout ce qu'il peut. Mais ça arrivait. Et puis après, les réseaux sociaux qui permettent d'échanger encore plus facilement. Peut-être moins physiquement qu'avant, mais au final, on prend le plaisir de se retrouver, nous, en tant que membres, de faire ces événements-là, de ne pas oublier, justement, soit d'où on vient, où on veut aller, et pourquoi on le fait, en fait. C'est ça qui est important.
Et aujourd'hui, il y a toutes les générations dans le club. Est-ce que les jeunes viennent encore vous voir, sont toujours aussi passionnés que vous l'étiez quand vous étiez jeune?
Alors déjà, il y a beaucoup d'enfants, d'adhérents et d'adhérentes
qui sont piqués,
qui sont piqués et qui rentrent dans l'association. Donc ça. Et puis oui, on a des jeunes. Donc le club est à partir de 12 ans normalement. On accepte les adhésions à partir de 12 ans. Et c'est vrai que en fonction des périodes, je sais qu'à une époque, on avait des gens qui étaient très qui connaissaient bien la Magic, le jeu de cartes à collectionner, etc., et qui organisaient des sessions Magic. Et à ce moment-là, on a eu énormément de très jeunes adolescents qui venaient pour jouer à ça. Donc maintenant, on en fait un peu moins, mais on va ouvrir justement ce jeudi notre nouvelle permanence pour les jeux de plateau. Justement pour les... Donc c'est à la Maison Cellière, le soir, et ça permet aux gens qui veulent jouer à des nouveaux jeux de plateau ou alors découvrir des jeux de plateau. Donc il y a des bénévoles qui sont là pour leur montrer les jeux et pour leur expliquer, etc. On a une ludothèque aussi, on a 150 jeux, un truc comme ça.
Et il y a beaucoup de joueurs en Calédonie, c'est quelque chose qui plaît comme activité?
Oui,
on se rend compte qu'il y a des passionnés aussi.
Voilà, et puis c'est une activité sociale aussi. Et puis les jeux de cartes, c'est vrai que nous, on n'en fait pas beaucoup, mais on est souvent en lien avec des boutiques de la place avec qui on a des très bons partenariats, qui organisent des jeux. Donc c'est vrai que c'est... Voilà, ça...
Donc l'idée, c'est d'organiser des rencontres. Il y a beaucoup d'événements. Quels sont les événements marquants, si on peut replonger un petit peu dans l'histoire, et puis peut-être aussi dans les choses très récentes? Qu'est-ce qui vous a marqué ces dernières années au niveau du SIFI Club? Peut-être pour rappeler des souvenirs aussi aux auditeurs.
Il y a les 24 heures et la nuit du fantastique. Donc ça, c'était quasiment tous les ans depuis 1987. Ensuite, on a eu la convention de jeux de rôle.
Depuis 93.
93, oui, voilà. Et on l'a aussi quasiment annuellement, une convention avec, où on présente plein de jeux de rôle, où il y a un concours...
Et surtout, c'est que depuis 93, il y a quand même des maîtres de jeu locaux qui prévoient des scénarios complètement originaux et qui prennent en charge soit justement des non-initiés ou des vrais joueurs avec des récompenses à la clé. Pour vous dire à quel point, en fait, on n'a vraiment pas à rougir des conventions, on va dire, internationales, c'est qu'on a eu Mike Pondsmith, qui est le créateur du jeu de rôle Cyberpunk, et qu'on connaît bien encore maintenant, encore plus avec la sortie du jeu vidéo, donc une référence en fait en la matière, qui nous a quand même dit qu'on avait une convention qui tenait extrêmement bien la route et qui était meilleure que certaines conventions américaines. Donc là, vous vous rendez compte en fait à quel point ça... C'est gratifiant pour nous. On le fait pas pour ça, en fait. On le fait parce qu'on veut communiquer une passion, et on le fait vraiment avec un sérieux dont on ne s'est jamais détaché depuis la création du club. C'est ça qui est sympa à retenir, en fait, pour tout le monde.
Et parmi ces événements, justement, donc le Weekend Geek, qu'on a commencé en 2011, et quasiment chaque année aussi, mais enfin pas tout à fait, mais avec des invités internationaux, et on a eu quand même des invités internationaux très prestigieux, donc Mike Pondsmith, mais on a eu les Noobs, qui sont qui font une web série qui est justement sur le fantastique, qui s'inspire des jeux vidéo, etc. Mais on a eu énormément de dessinateurs de bandes dessinées, on a eu des auteurs, on a eu des traducteurs, on a eu vraiment beaucoup de monde, quoi. Voilà. Mmh. Et cette année, on aimerait bien pouvoir relancer le Weekend Geek fin octobre. Mais c'est vrai que, bon, bah, on a besoin de sous pour payer des billets d'avion.
Forcément. Mais justement, comment on met, j'allais dire, la Nouvelle-Calédonie sur la carte du monde du fantastique pour faire venir des sommités comme cela? Comment on fait? C'est quoi qui fait la différence?
Alors, à la base, on a eu la chance d'avoir des amis d'amis ou des amis d'adhérents qui sont venus. Boulet, par exemple, il voulait venir en Calédonie depuis longtemps et il connaissait des adhérents. Et ça a aidé.
Ça facilite. Ouais.
Ça facilite. Ouais. Et l'année suivante, c'est quelqu'un d'autre qui était connu. Mais à force, ces personnes-là, quand elles retournent en métropole et qu'elles sont en général super bien accueillies, ils sont vraiment très contents de leur séjour, bah, ils en parlent à leurs amis. Et après, des fois, on a même des auteurs ou des vidéastes ou des youtubeurs qui nous contactent en nous disant « Et votre convention, ça vous dit moi, je serais intéressée pour venir vous voir. Hein. » Et voilà.
Oui, donc ça, je suppose que voilà, c'est une petite consécration quand quelqu'un vous démarche aussi pour participer. Ça veut dire que vous travaillez avec sérieux et que la passion est vraiment là.
Il y a ce côté où c'est à la fois un handicap pour contacter des gens, mais aussi un avantage d'être loin. Parce que les gens se disent, tiens, c'est une destination complètement différente. Je ne cherche pas à décrédibiliser des villes, mais imaginez une ville qui est plus dans une grisaille du nord de la France où il ne fait pas très beau, où il y a peut-être juste un fond
d'usine. C'est moins vendeur.
Donc nous, on leur dit, bah, vous venez, on vous propose des plages, etc. Vous découvrez en fait la Calédonie à un moment où d'ailleurs elle est très agréable à vivre, au mois d'octobre, il ne fait pas encore trop chaud, les pluies sont quasiment finies, donc on a eu des reportages complets. Je pense à Bob Lennon qui a fait un vlog absolument fabuleux sur la Calédonie. Il est venu ici, sans rien quand la première fois il l'a publié, il y a plus de 300 000 personnes qui ont vu sa vidéo. On a contribué au final au rayonnement de la Nouvelle-Calédonie par cette simple action de passionnés.
Et puis, il ne reste pas uniquement à Nouméa. En général, on en profite pour aller à Bouraille, par exemple. Ouais. On a pas mal d'adhérents sur la ville de Bouraille. Donc, en même temps, ils vont... Bon, alors, on n'est pas allé jusqu'à Koumac pour l'instant, mais ou à Koné. Mais en tout cas, voilà, ils sortent un peu aussi et ça leur permet de rencontrer d'autres publics.
Alors, évidemment, vous êtes extrêmement passionnés tous les deux. Est-ce que tous vos adhérents ont la même passion, la même petite flamme intérieure qui leur permet d'avancer comme cela?
Ils ont intérêt.
Je dirais sans ambiguïté, je dirais qu'ils l'ont tous. Ouais. Parce que. Surtout. Parce que c'est une démarche déjà de s'inscrire et de se dire tiens, je vais rencontrer d'autres personnes. Et souvent, lorsqu'on est geek, on est expert, on a un petit peu aussi ce côté, est-ce que les gens ont le même attrait que moi? On a des fois un peu peur de se confronter, au contraire. C'est là où on va trouver des gens qui sauront nous parler tout de suite. On va avoir les mêmes références, on va... grandir en fait sur des codes. Ces codes-là en commun sont extrêmement importants en termes d'échange. Et ils sont là. Il ne faut pas du tout avoir peur. Si vous êtes passionné par justement la science-fiction, le fantastique, l'imaginaire, venez. Puis au pire, vous essayez. Voilà.
Oui, on organise énormément de soirées, de jeux. On fait des soirées loup-garou tiercedieu, par exemple. Et puis d'autres événements qui. Il y en a un peu pour tous les goûts, en fait. Dans l'imaginaire, c'est très, très vaste.
Ce qu'on disait, c'est large.
Voilà. Ouais. Et par exemple, notre week-end médiéval fantastique, on organise quasiment tous les ans du côté de Bouraille. On se costume, on a un jeu de rôle grand dans la nature, et puis on est vraiment en mode médiéval fantastique. Donc on est entre Game of Thrones et Le Seigneur des Anneaux, avec un petit côté Noël Buck aussi des fois. Mais voilà, et ça ne plaît pas à tout le monde. Mais ceux à qui ça plaît, ils attendent ça toute l'année.
Mais ils sont ravis,
Voilà, ils
forcément.
Sont ravis. Et voilà, et il y en a d'autres, ils vont être plus, justement, jeu de plateau. En août, on va organiser pour la première fois un festival de jeux de plateau. On n'est pas encore sûr où est-ce que ça va se trouver, mais ça sera fin août. On recherche d'ailleurs des bénévoles, s'il y a des gens qui veulent présenter des jeux de plateau, n'hésitez pas à nous contacter. Et ça va être super, c'est un nouvel événement qu'on organise.
J'allais justement vous demander, est-ce que vous êtes proactif vraiment au niveau de l'association? Comment vous faites pour tout organiser, avoir autant d'événements? Combien de personnes se mobilisent sur vos événements et comment ça s'organise?
Alors, on est une centaine d'adhérents à l'heure actuelle, à peu près, en moyenne. On a bien 20-25 personnes à l'année qui sont quand même très motivés, enfin très mobilisés sur les événements, sur l'organisation, etc. On a un bureau évidemment qui est quand même assez actif.
Il y a une sorte de fonctionnement aussi en mode projet,
oui,
où
voilà.
En fait on propose justement, ben voilà, il y a tel projet lors de l'Assemblée Générale qui est présenté, qui serait partant pour le gérer. Et forcément, c'est pas une personne qui va gérer 14 projets, mais au moins il y en a un qui va se dire, celui-là et celui-là, peut-être ils vont prendre deux, peut-être trois, s'il est vraiment hyper motivé et qu'il a plus de temps, mais au moins ça permet d'avoir quelqu'un qui sera là pour organiser un projet.
Même juste un seul projet, hein. Je sais que voilà. Ben, voilà, on a un de nos adhérents qui est super, qui avait organisé la mini-conv l'année dernière. Il a dit, moi cette année je vais réorganiser une convention de jeux de rôle, ça sera en juillet à la médiathèque de Coutiot, et voilà, et il fait entre guillemets que ça, mais c'est déjà beaucoup. Il organise ça, il est quasiment en autonomie, il connaît les ficelles. Le bureau est là pour aider, pour la communication, à la fois sur nos réseaux sociaux, on a un site internet, on a une newsletter, on a un Discord aussi du SIFI. Donc, voilà, mais ça se fait en... Voilà, du coup, à chaque fois, quelqu'un peut prendre en charge un événement et proposer aussi sa vision de l'événement.
Et les Calédoniens répondent toujours présents, parce que c'est vrai qu'il y a du monde quand même sur vos événements, ça aussi, ça doit être...
Un événement qui est encore marquant, qui a très bien marché, parce qu'on n'a pas abordé le thème du steampunk, par exemple. Il y a eu
une soirée steampunk
et une réunion aussi au Château Hagen, justement, qui avait accueilli énormément de monde. Donc le steampunk, pour expliquer brièvement, c'est ce mélange, en fait, vous imaginez une ambiance à la Jules Verne, vous rajoutez un petit peu de fantastique dedans et beaucoup de machines à vapeur, et vous avez cette ambiance, donc fin 19e, qui va encore en plus avec l'architecture qu'on a ici, puisque l'histoire, on va dire, de construction est assez récente de ce niveau-là. On dit qu'on a fait du médiéval, mais c'est vrai qu'on n'a pas de château pour s'amuser.
Enfin, c'est
mais
pour ça par que contre, c'est du médiéval fantastique.
Fantastique, voilà. Par contre, contrairement à les steampunk, on peut se retrouver, le château Hagen est carrément dans la thématique. Donc, lorsqu'on investit les jardins pour ça, c'est absolument fabuleux. On est
sachant
en costume et tout.
Dans le steampunk, c'est vraiment l'esthétique 19e, mais la mentalité science-fiction. On est vraiment dans une mentalité, au contraire, qui est beaucoup plus à la Star Trek, qui est beaucoup plus égalitaire, qui est beaucoup plus très inclusive, etc. C'est pas, on n'est pas à l'époque du 19e dans la tête. C'est pas du tout ça.
Au contraire, oui. C'est extrêmement inclusif, comme genre. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et en fait, il y a quelque chose de très formateur aussi dans le club. Personnellement, je suis médiateur culturel. J'ai tout ce que j'ai appris, en fait, au départ, je l'ai appris au final sur le tas, puisque j'ai organisé les 24 heures du Fantastique, j'ai été président de l'association, j'ai appris justement à discuter avec différents partenaires, à devoir gérer des budgets, des projets, etc. À quel moment, lorsque j'étais gamin à faire ça, je me disais que, bah tiens, je vais en faire mon métier, ou ça va m'aider, en fait, dans mon métier. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement formateur. Et on a beaucoup de gens, d'ailleurs de membres, en fait, qui ont pu apprendre de ce côté-là avec le club, au final.
Et le fait d'être dans ce monde de l'imaginaire, j'imagine qu'on est plus créatif aussi au quotidien, parce que vous parliez des costumes, vous parliez d'organiser des événements,
oui,
etc. Je suppose que vous êtes tous créatifs.
Alors, peut-être pas forcément tous ou toutes, mais en tout cas, oui, on a beaucoup de créatifs dans nos rangs et de plein de façons différentes. Ça peut être au travers du dessin, de la peinture, des costumes, oui, parce que on n'est pas tout le monde, encore une fois, mais on a pas mal de personnes qui aiment se costumer.
Voilà, il y a énormément de créativité pour adopter des costumes qui sont normalement portés en hiver pour qu'ils soient portés lorsqu'il fait 30 degrés.
Oui, c'est
voilà. Imaginez.
Oui, j'imagine que certains costumes, ça va être difficile. Ouais,
c'est pour ça que le week-end médiéval, en général, on le fait entre juillet et août. Hein.
Oui. Oui, parce qu'on peut faire un week-end médiéval fantastique, mais quand même...
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça.
On garde les bonnes températures.
Voilà.
Et alors, la suite, quels sont vos projets? J'ai vu, et ça montre aussi que vous faites partie du patrimoine calédonien, c'est qu'il va y avoir un timbre OPT du SIFI Club.
Oui, on est très contents.
C'est une fierté, parce que c'est vrai que ça marque les grandes organisations ou les grands temps forts de la Nouvelle-Calédonie.
Tout à fait. Et on a contacté l'OPT qui a répondu présent, et on est en train de travailler avec un illustrateur, Romain Flamand, qui est en train de dessiner le timbre du SIFI Club, des 40 ans du SIFI Club, en essayant de mettre en avant à la fois ce qu'on appelle les trois vents de l'imaginaire, qui sont la science-fiction, le fantastique et l'horreur. Donc mettre tout ça sur un timbre, alors pas trop horrible non plus, évidemment. Mettre aussi en avant la Calédonie, parce que c'est notre spécificité, on est un club de Nouvelle-Calédonie. Et voilà, on a hâte.
Sur le papier, ça ressemble à un casse-tête, parce que faire rentrer tout ça sur un timbre...
Oui, non, mais ça va, il s'en sort bien.
C'est pas quelque chose de complètement nouveau de parler de science-fiction ou d'imaginaire sur un timbre, c'est quelque chose qui se fait très régulièrement dans d'autres pays. En fait, vous pouvez trouver des timbres de Star Trek ou même des timbres Albator ou autre. C'est très facile à trouver sur le net et c'est officiel. Ça fait partie justement de la culture, comme on a dit, de la culture pop, culture populaire.
Mais la culture pop, c'est aussi de la culture.
Tout simplement, voilà.
Ça veut dire qu'il y a des collectionneurs du monde entier de timbres liés à la science-fiction qui vont peut-être avoir le timbre de l'OPT
et
du Sci-Fi Club.
Tout à fait.
Il y a des chances.
Exactement. Et j'espère, on est en pourparlers justement avec l'OPT par rapport à ça, mais j'espère pouvoir organiser une séance de dédicace avec Romain Flamand à la Maison Célière pour la sortie du timbre.
Bon, si on veut vous rencontrer, parce que ça fait 40 ans, si les gens se sont pris de passion ou il y a des geeks peut-être qui sont chez eux et qui n'osent pas venir dans un club, c'est la Maison Célière le point de rendez-vous.
Oui, tout à fait. Donc le jeudi soir pour les jeux de plateau, le vendredi soir c'est plutôt les figurines, les wargames avec les grandes batailles avec plein de petites figurines, et le samedi après-midi. Donc, au rez-de-chaussée de la Maison Célière. Et après, on est sur à peu près, on est sur beaucoup de réseaux. J'allais dire tous les réseaux, non, peut-être pas. Mais on est en Calédonie sur Facebook, forcément. Ouais. Mais aussi sur Discord, pour ceux qui n'aiment pas les GAFAM. Et on est newsletter. On a le site internet, faut pas hésiter. Je pense qu'on peut être facilement joignable pour avoir des informations.
Et vous êtes toujours à la recherche d'adhérents, j'imagine, pour vous rejoindre.
Alors, déjà, parce que on aime bien partager ce qu'on fait, donc il faut pas hésiter à venir. On a organisé récemment un pique-nique pour le Tolkien Day à la Maison Célière. Donc c'était le pique-nique pour fêter, c'est le 25 mars, la journée de la destruction de l'anneau unique, mais c'est aussi une journée internationale autour de Tolkien, de l'auteur du Seigneur des Anneaux. Et on a fait un pique-nique, on était plusieurs à être costumés en hobbit ou en personne du Seigneur des Anneaux, et on mangeait ensemble et on a lu du Tolkien. Donc ça peut être quelque chose de très... Et c'est ouvert à tous, à tous et à toutes. Et de la même façon, on va organiser un pique-nique au parc forestier le 3 mai. Le dimanche 3 mai, autour des fées et lutins, parce qu'on a une troupe de fées et lutins aussi.
D'accord. c'est une information.
Voilà, on a une troupe de fées et lutins qui a été créée grâce à la ville de Nouméa pour les illuminations de la ville, et donc qui reprend du service souvent à l'époque de Noël et pour les festivités. Mais là, c'est pas l'époque de Noël. On propose à toutes les personnes qui aiment la féerie de venir, alors costumer, partager un pique-nique, faire des photographies, etc.
Donc encore beaucoup d'événements.
Oui, qui sont ouverts à toutes les personnes qui peuvent avoir envie d'un peu d'imaginaire, d'un peu de joie, d'un peu de costume, et juste de partager ça avec d'autres personnes qui ont aussi envie de partager ça.
Et ce club, vous le voyez comment dans 10, 20, 30, 40 ans? Vous le voyez toujours évoluer?
Ce sont les membres qui font vivre le club, en fait. Le club n'a pas de volonté mercantile ou autre, il veut juste, en fait, proposer sa passion aux gens.
Les inviter
en fait à venir justement en parler, la partager. Et après 40 ans, en fait, on se retrouve avec des contacts, avec des possibilités et des encadrements. Et surtout, on a testé beaucoup de choses en 40 ans qui font qu'on peut continuer tout cela. Et on est aussi dans une époque où la culture geek, parce qu'on on la traite un peu comme ça, même les plus grandes célébrités sont dedans, en fait. On baigne dedans. Steven Spielberg est un grand geek. Henry Cavill, qui a joué l'avant-dernier Superman dans Man of Steel, est un grand joueur de Warhammer. Il a failli louper son rôle parce qu'il jouait d'ailleurs aux jeux vidéo, à Warcraft à l'époque. Mais il y en a plusieurs, en fait, comme ça, qui sont maintenant on va dire, comment on dit ? qui sont dans le décor, vraiment, et qui imposent, enfin pas qui imposent, mais qui...
Oui, qui mettent en avant la culture.
Qui mettent en avant cette culture-là culture, et qui pèsent, justement, rayonne, ouais. leur voix ouais, pèse, voilà. en fait. Mm-hmm. C'est, on est très loin de cet archétype du geek qu'on imagine, malingre, avec des lunettes, la tête pleine de boutons, et puis la chemise avec trois stylos qui fuient dans la poche, qui a été longtemps utilisée, puisque geek, au départ, était une insulte. Mm-hmm. Et maintenant, en fait...
Vous le revendiquez.
Ah bah c'est comme dans toutes les communautés, en fait. Hein. Toutes mmh. La plupart des insultes qui étaient données aux communautés voilà. ont été, d'une façon, alors je dirais pas politique, mais en fait, d'une façon revendicatrice, ont été récupérées. Et oui, geek, maintenant, c'est une fierté. Et le club a su, en 40 ans, évoluer. C'est surtout ça. Alors, heureusement, il y avait des gens comme Guillaume ou d'autres qui étaient là pour continuer à tenir le flambeau. Mais le club a su évoluer. Malgré l'arrivée des réseaux sociaux, des changements, du streaming, de choses comme ça, le club a trouvé des façons de continuer à faire des événements qui sont sympas et qui attirent du monde et à continuer à exister. Donc, moi, j'ai pas de crainte, je pense que dans 40 ans on existera toujours, ça sera différent parce que les loisirs sont différents et le goût des gens et les choses évoluent aussi, mais l'imaginaire c'est quelque chose que l'être humain a toujours recherché, a toujours aimé, donc c'est juste une expression, des expressions qui sont différentes.
Eh bien, on vous réinvitera dans 40 ans, alors. Je sais pas sur quel support nous serons à ce moment-là.
Voilà.
Merci en tout cas à tous les deux d'être venus ce midi dans ce magazine citoyen pour en quelque sorte célébrer cet anniversaire et faire part des projets du club. Il est midi 32, c'est donc la fin de ce magazine citoyen. Une émission à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Et on se retrouvera à 13h pour le rappel des titres.
Le magazine citoyen avec la Province Sud, une province citoyenne.
La Province Sud, agir pour l'avenir.